39, on vous accueille, Mathieu Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Et on va entamer une réflexion très intéressante dans votre question philo du jour. Alors, les questions autour des progrès de l'intelligence artificielle font l'actualité chaque jour, hein, on en parle souvent. Et vous êtes venu poser la question de la définition de cette particularité humaine qu'on appelle la conscience.
Oui, en effet, parce que c'est peut-être bien jusqu'à présent, en fait, notre grande particularité par rapport aux machines. Oui, parce que certains se demandent si l'ordinateur dépassera un jour l'homme en intelligence, par exemple. Mais en fait, c'est déjà le cas dans plein de secteurs. Je dirais même, c'était déjà le cas dans les années 80, où la calculatrice était quelque part déjà plus rapide que nous pour des calculs un peu compliqués. Alors l'intelligence, le langage, la mémoire, en fait, tout ça, la machine le possède déjà, ou à tout le moins en partie. Mais il y a cette différence entre moi et l'ordi contre lequel, par exemple, je joue aux échecs, c'est que lui, contrairement à moi, il ne sait pas qu'il est en train de jouer aux échecs. La conscience, c'est ça. Hein, c'est un état et une activité d'esprit qui signifie étymologiquement « savoir avec ». Un être conscient, c'est donc un être qui se représente avec lucidité son propre état. Par exemple, si vous me remplacez à ce micro par ChatGPT, il pourra probablement dire des choses très intéressantes, mais lui, contrairement à moi, ne se représentera pas à lui-même le fait qu'il est en train de vous parler de philosophie. Ainsi, l'humain a donc conscience de lui. Et c'est d'ailleurs pourquoi le philosophe Pascal en vient à se poser cette question dans les pensées. Qu'est-ce que le moi ? En fait, quand on dit je, quand on dit moi, en fait, de quoi parle-t-on ? Parce qu'il est facile de dire que la machine n'a pas de moi, mais il est plus compliqué de définir pour nous ce que ça veut dire que le moi. Pascal nomme ce problème la dispersion de l'individu. Quand on dit qu'on aime une personne, qu'est-ce que l'on aime en fait ? Qu'est-ce que signifie ce moi à qu'on attribue à l'autre et qu'on prétend aimer ?
Et j'imagine que Pascal a des propositions.
Tout à fait. Alors Pascal, il passe en revue comme ça des hypothèses. Il se dit peut-être qu'en fait, quand je dis que j'aime l'autre, ce que j'aime, en fait, c'est le corps de l'autre. Hein. Mais il écarte cette idée, car si c'était le cas, dit-il, l'amour s'effacerait à la suite de la petite vérole. Bon, il parle avec son temps.
Covid aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Ce n'est pas non plus, continue-t-il, l'intelligence, la mémoire ou les capacités cognitives, car on peut aimer quelqu'un, un parent par exemple, qui perd par exemple ses facultés cognitives ou mentales. Mais où est donc du coup ce moi qui n'est ni dans le corps ni dans l'esprit ? Eh bien, pour Pascal, ce qu'on aime, en fait, ce n'est jamais vraiment la personne, mais ce sont ce qu'il appelle des qualités empruntées. En fait, pour lui, il n'y a rien qui définisse vraiment le sujet. Ce qu'on aime chez quelqu'un, ce sont ses attributs qu'il porte un temps, mais qu'il peut perdre et qui peuvent changer. On pourrait dire que le moi, c'est comme un espèce de buste invisible, qu'on ne peut pas percevoir ou qu'on ne perçoit qu'au travers des habits provisoires qu'il s'efforce de porter. Et c'est sur cette réalité invisible que porte notre conscience. C'est ça, probablement, que la machine ne peut pas se représenter. Et finalement, c'est aussi ce moi invisible dont Descartes va parler quand il énonce le cogito, le fameux « je pense, donc je suis », ce qui empêche le moi de se dissoudre à l'occasion d'un examen approfondi. C'est le constat que quand bien même je doute de tout, y compris de ce que je suis, ben la simple fait que je doute est là pour me rappeler qu'il y a bien un « je » qui pense. Et cette certitude, encore une fois, ne nous est accessible que parce que nous sommes conscients.
Nous sommes conscients et je ne vous remplacerai pas par ChatGPT, je vous rassure. Déjà parce que vous